Bill Withers est parti retrouver les mains de sa grand-mère, celle qui jouait du tambourin et le relevait dans les moments les plus compliqués. Il y a 80 ans, dans la petite ville minière de Slap Fork, West Virginia, naissait un petit garçon bégayeur du nom de Bill Withers. Soul lover, hitmaker, il est l'un des artistes les plus repris dans le monde et l'un des patrons de la soul. Pourtant, la musique ne l'intéresse pas. À 17 ans, il s'engage dans la Navy, refusant ainsi de devenir, à son tour, un mineur de charbon comme le reste de sa famille. La suite de sa carrière se fera au sein de Boeing, à construire des toilettes.
Mais à 32 ans, tout change. Une carrière musicale lui plairait bien. Il va faire la rencontre de Booker T. Jones de son label Sussex Records, qui lui propose un deal pour son premier album Just As I Am. Avec une liberté créatrice totale, Bill proposera un album de renouveau dans un univers soul en pleine crise identitaire. La suite, eh bien, elle est ancrée dans l'histoire de la musique, avec 8 albums solo et une intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 2015. Bill restera dans la mémoire de toutes et tous. Ce 30 mars 2020, le sunshine s'est éteint, mais ses hits continueront de nous faire danser et chanter.
Bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour.
Bonjour Dalil.
Et salut Léandre.
Et bonjour, et donc voilà, vous l'avez entendu, en effet, Bill Withers est parti ce 30 mars 2020 à la suite de complications cardiaques. Et au podcast, on aimait beaucoup, 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 beaucoup ce qu'il représentait, ce qu'il chantait, ses chansons, mais aussi le personnage. Et donc, on a décidé d'en faire un petit hommage dans cette émission.
Bah, le monde des médias n'a pas énormément couvert cet événement, je trouve, c'est un pilier quoi, de la musique.
Mmh. En fait, j'ai l'impression que l'image de Bill, elle est surtout retenue pour ses hits, dont on parle évidemment, Ain't No Sunshine, Just the Two of Us, et on le considère pas assez comme un artiste qui a vraiment une carrière assez importante quoi.
Bah ouais, et c'est surtout que c'est, enfin je veux dire, c'est quand même une belle personne.
Mmh. Ouais, c'est ça.
Mais bon, ces interviews n'ont jamais été traduites en fait. Et je pense que c'est pour ça parce que.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que même moi, honnêtement, avant cette annonce, bah, je connaissais un peu le personnage. J'aimais vraiment bien ce qu'il faisait. Mais le personnage en lui-même, vraiment, donc on a regardé tous les deux le documentaire Still Bill, qu'on vous conseille évidemment. Et là, on se rend compte que c'est quand même un personnage assez, assez intéressant.
Oui, il a quand même mis en pause sa carrière en 1985 pour s'occuper de sa famille,
de ses enfants,
pour être un père, puisque lui n'a pas connu son père.
Et puis même... De toute façon, on va refaire un peu sa vie, je pense. On en a parlé très vite, donc il naît dans une petite ville de mineurs en West Virginia, RPZ John Denver.
Merci, j'allais le dire.
Il fait partie des deux seules familles noires dans le village. Mais bon, ils sont 200 familles, un truc dans le genre, enfin, c'est vraiment un très très petit truc. Et alors il bégait, et ça lui pourrit la vie à mort quoi.
Bah, ça lui a joué des mauvais tours, il en parle à chaque fois avec les larmes aux yeux. Apparemment, enfin, c'était vraiment difficile pour lui en tant qu'enfant de bégayer.
Ouais.
Heureusement que sa grand-mère était là pour l'aider à surmonter tout ça, parce que le pauvre, s'il n'avait pas eu des gens qui croyaient en lui, je ne pense pas qu'on aurait eu de Bill Withers comme on connaît maintenant quoi.
Ouais, c'est clair. Et donc il décide de partir à la Navy aussi en partie pour ça, parce qu'il veut recommencer une vie en fait. Il en a vraiment marre de ce qu'il est en train de vivre à Slap Fork. Et donc il se dit, bah, je vais prendre un nouveau départ. ça ira mieux, etc. Et donc toute sa vie, ce problème de bégaiement, ça l'a vraiment frustré parce qu'il y a personne ne le comprenait en fait. Et donc tout le monde lui disait mais crache le morceau, comme si c'est lui qui choisissait de bégayer quoi. Et donc c'est seulement après bon donc il va faire une carrière à la Navy, il va ensuite travailler pour Boeing, il va construire des toilettes.
D'ailleurs si vous retrouvez des petites caméras dans les Boeing 747, c'est Bill qui les a plantées.
Tout
là,
à fait, tout à fait. Il connaît... mettait des toilettes, il mettait des caméras dans les toilettes.
C'est vrai ça.
et ensuite donc voilà, il arrive enfin à vaincre son problème de bégaiement en 28 ans je pense.
C'est
et,
ça.
Et donc il se dit bah je ferais bien de la musique. Alors qu'il en a jamais fait de sa vie.
Les seules chansons qu'il faisait, c'était quand il chantait sous sa douche. Ouais. Enfin, comme un peu tout le monde, quoi.
Ouais, et quand il était bourré à la Navy aussi.
Aussi,
il ouais. chantait pour ses potes. Et donc, il va faire un peu le tour de tous les labels pour leur dire, bah, voilà, moi, ça m'intéresserait bien. Qu'est-ce que vous me proposez, etc. Il y a beaucoup de labels qui vont lui dire, bah, voilà ce qu'on te propose. Des Claudettes derrière, des cuivres. Enfin, le truc qu'on fait, que tout le monde faisait, quoi. Et ça, ça lui plaisait pas trop.
Du coup, il les envoyait chier, clairement.
Ouais,
parce qu'il disait, en fait, j'en ai rien à foutre de ce que vous me proposez. Moi, j'ai cette vision-là. Et si vous acceptez pas, bah, ciao.
Surtout qu'il partait pas dans une optique de miser toute sa vie là-dessus, quoi.
Il
aimait bien ce qu'il faisait, à construire des chiottes. Et il voulait juste faire de la musique. Et donc, il rencontre enfin Booker T. Jones du label Sussex Records. Et là, ça passe plutôt bien, quoi.
Bah, ça se passe énormément bien, puisque il y a même un grand guitariste, je sais plus comment il s'appelle, qui passait par là et qui lui a dit « Ouais, tu viendrais pas 30 minutes pour record une chanson ?» Et du coup, bah, ça s'est fait, quoi. Mais il faut savoir que Sussex Records, bah, c'était pas non plus... Enfin, leur finance n'était pas non plus au beau fixe.
Ouais, c'était tendu, ouais.
Et du coup, il a mis 6 mois... Donc, il a fait un premier enregistrement de son album et 6 mois plus tard, il a pu enfin terminer son album puisqu'il y a eu des problèmes de studio, etc. pendant cette période-là, chez Sussex. Ensuite, Just As I Am est sorti. Il faut savoir que lui, il en avait... Enfin, il était content, il était heureux, mais il continuait de faire ses chiottes, quoi.
Ouais, c'est ça.
Il y a un DJ d'une radio locale qui s'est trompé.
Ouais, il a mis la face B.
Il a mis la face B avec Ain't No Sunshine dessus. Normalement, c'était Harlem qui devait sortir.
Qui devait être le single qui allait le propulser.
Et c'est Ain't No Sunshine qui tombe combien top ? C'était 14, c'est ça ?
Ouais, je crois que c'était 14, ouais.
Dans la charte.
Dans le Billboard 100. Et bah, puis c'est parti, quoi. Tout le monde kiffe cette chanson. Pourquoi toi, tu la kiffes ?
Pourquoi moi, je la kiffe ?
Ouais.
Bah, écoute, c'est simple. Ça te reste dans la tête facile,
ouais,
tu vois.
C'est
alors,
une super mélodie.
Le I know, I know, I know, I know, I know. Parce qu'en plus, il faut savoir que le gars était entouré hein, de plusieurs personnes avec toute une grosse carrière musicale derrière. Lui, il voulait écrire, tu vois, en plus. Je voulais mettre des trucs, des paroles entre le I know, et puis t'as tout le monde qui regarde, tu fais bah t'es fou, tu restes comme ça et tu continues. Et donc lui il a regardé, il a fait bon bah comme je suis qu'une merde dans la production musicale, je vais accepter quoi.
Bah c'est unique hein, mais, ce moment là.
Ah ouais,
c'est
non unique. Mais.
Et alors aussi, bah, enfin il faut remettre dans le contexte aussi à laquelle cette musique est sortie, où on était plus dans de la musique soul. Oh, I love her so de Ray Charles, beaucoup d'amour, etc.
C'est ça, et le mec, Supreme aussi.
Ouais. Et le mec débarque avec un truc très, très mélancolique, très triste, où il met en avant la sensibilité des hommes, quoi.
Ouais, parce qu'il faut savoir aussi qu'à l'époque, même encore maintenant, mais je veux dire beaucoup moins, les hommes ne faisaient pas réellement part de leurs sentiments aussi.
Du moins pas ceux-là.
Ouais, c'est ça. Surtout les Afro-Américains.
Ouais.
Qui quand rompait avec madame, c'était bah je suis mieux tout seul quoi.
Ouais, à fond.
Et lui il est là, il arrive et il dit bah non, quand elle est pas là, ma vie est complètement terne, triste, morne et terne.
Donc le succès est au rendez-vous directement en fait hein.
Oui,
No Sunshine ça le propulse à mort, il enchaîne les radios, les télés, etc. D'ailleurs il va faire un talk show super, le talk show numéro 1 aux États-Unis, et le lendemain il retourne travailler.
Ouais.
Et il dit, bah, je l'ai pas dit à mes collègues parce que tout le monde se serait foutu de ma gueule, quoi.
Et t'as vu le talk show ? Enfin, je sais pas si t'as vu un peu des images de ce talk show.
Ouais.
Il y avait que des blancs.
Ah, bah oui, évidemment.
C'était un talk show de blancs pour les blancs. Et enfin, c'est un Afro-Américain, quoi.
Ouais, bah, il est light skin, hein, donc ça lui a joué aussi des tours dans sa vie. Mais évidemment, la question de la race est très présente dans sa vie. En tant qu'Afro-Américain dans ces années-là, tu ne pouvais pas y échapper, évidemment. Et il en parle souvent, évidemment, il leur donne un nom, mais je me rappelle plus, mais des blancs dans les labels de musique lui apprennent ce quoi la musique soul.
Les Black Spurs,
c'est ça, voilà. Et il est très... C'est ça qui est bien aussi avec Bill Withers, c'est qu'il est très franc et il est cash, quoi. Lui, c'est un real. Et donc, il le dit comme il le pense. Mais donc, dans cet album Just As I Am, il n'y a pas que Ain't No Sunshine. Il y a donc Harlem, dont on a déjà un peu parlé, qui est évidemment une musique sur Harlem. Il y a aussi Grandma's Hand.
Oui, donc comme je l'avais dit au début, sa grand-mère a un rôle important dans la vie de Bill. Elle est issue de l'esclavage, son grand-père aussi. Et alors, il disait que sa grand-mère, à la paroi, lors de la prêche, elle se levait spontanément, elle commençait à claquer de ses mains, et puis elle commençait à chanter, et puis tout le monde chantait, et c'était que de la good vibes, quoi, que du feel good, etc. Et les gens ont oublié un peu tout ça.
Et puis quand même, faire une chanson d'amour, en final, pour sa grand-mère, ça se faisait pas non plus, ça se fait même pas non plus énormément maintenant. Et enfin, le texte est magnifique, et ça, c'est devenu un classique de la musique soul, ce texte et cette musique, qui a été samplé à de nombreuses fois, entre autres par Blackstreet pour No Diggity. On n'est plus du tout sur le même sujet.
Ouais, hein, c'est... Enfin bref.
Voilà, il commence à avoir une carrière assez importante, mais il reste vraiment chill à mort. Il dit « I'm just a black man with an acoustic guitar ». Et puis il dit « J'entends dans les journaux des gens qui commencent à dire que je suis beau gosse et tout, alors que jamais je me suis pris pour un beau gosse et tout. »
C'est ça.
Je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis il enchaîne, hein, évidemment, il enchaîne.
Mais il a toujours, je trouve, une simplicité, donc que ça soit dans le rythme, que ça soit dans les accords qu'il utilise, ou même dans les paroles, qui fait que, en fait, c'est pas de la simplicité, c'est de la vérité.
Oui,
ce gars,
voilà,
il a tellement compris qui il était, qu'il a réussi à le retranscrire en musique et à faire passer ça. Et alors, ce qui est vraiment génial, c'est que de cette simplicité, tout le monde peut s'approprier cette musique.
À fond.
Et on le voit, puisque Grandma's Hand a été repris aussi par Barbara Streisand.
Ouais. Il y avait énormément d'attrait pour les grosses boîtes musicales à l'utiliser, lui, pour aussi en faire un artiste pour le public blanc.
Oui, c'est ça. Puisqu'on lui a demandé de faire une reprise de In the Ghetto.
Par exemple, d'Elvis.
D'Elvis.
Qu'il a évidemment refusé.
Puisque pour lui, le ghetto, il l'a jamais connu.
Ouais. Et Elvis non plus, d'ailleurs.
Oui.
Puis ensuite, il enchaîne avec Steel Bill.
Qui est pour moi la consécration de Bill Withers. Hein.
Ouais, clairement. De toute façon, ça va vraiment être les premières années. Moi, je trouve que c'est les premières années où il fait vraiment du bon boulot. Et après, ça se discute. Il deviendra peut-être ce qu'il disait qu'il ne deviendra jamais, mais on en reparlera après, peut-être.
Ouais.
Dans Steel Bill, il y a Use Me, Lean On. Enfin, il continue à faire des hits, quoi, non-stop.
C'est ça, tout le temps.
Et faire des chansons sur l'amitié. C'est des trucs qu'on ne faisait pas avant, tu vois.
Et surtout que Use Me est pour moi la chanson de tout le répertoire de Bill qui est la plus ambiguë possible et imaginable, parce que on peut l'interpréter de mille et une façons, quoi.
Parce que beaucoup de gens l'ont interprété sexuellement, alors qu'au final,
on sait pas, et même lui aussi, il en a rien à foutre.
Et il en joue à fond.
Il en joue de dingue, et on sait toujours pas de quoi ça parle, en fait.
Ouais.
Même au niveau de l'industrie musicale, on pouvait le traiter comme ça,
à fond.
Moi, je trouve que c'est justement, ça fait écho pour le reste de sa carrière. Où l'industrie musicale l'a utilisé.
Ouais, et il la critique énormément, l'industrie musicale. Il la déteste, il n'a pas peur de le dire, que quand les grosses boîtes voulaient faire de lui la star rhythm and blues avec des gonzesses derrière, etc., il a dit non. Et après, force est de constater que, par exemple, avec Just the Two of Us en 1981...
Ah ouais, bah justement, je ne sais pas si c'est son clip officiel ou alors si c'est juste un live.
Je ne pense pas que ce soit son clip officiel, je pense que c'est juste une prestation live.
C'est une prestation live.
Il a l'air complètement blasé.
Il est complètement blasé. Hein.
Ouais, à fond.
Il ne croit pas du tout en ses paroles, il n'incarne plus du tout. Et d'ailleurs, 4 ans plus tard, il met un terme à sa carrière.
Ouais, il arrête tout de suite après. Il n'en a jamais vraiment parlé de pourquoi il a arrêté.
Non.
Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'il s'est quand même fait pas mal entuber par des grosses boîtes. Et donc, ça aurait évidemment joué sur sa vision de la musique. Il le dit d'ailleurs à un moment d'une façon très poétique, de ne pas confondre la musique et l'industrie de la musique, qui sont des choses complètement différentes. La musique, on en fait tous, que ce soit à l'église, donc par exemple quand il parlait de sa grand-mère, sous la douche, etc. Et l'industrie musicale, qui est un monde complètement différent, avec des facteurs qui joue à fond. Donc c'est pas parce que tu as du talent que tu vas réussir dans l'industrie musicale. Il y a tellement de facteurs qui jouent que... Et ça, il le critique ouvertement, quoi. Et je pense qu'il l'a subi.
Ben justement, il est vraiment amer envers cette,
ah ouais, cette industrie, quoi. Ensuite, il enchaînera encore quoi, 6 albums. Ouais, 6 albums. Avec encore quelques hits, hein, Lovely Day, Just the Two of Us, dont on a parlé.
Ouais, et puis ça s'écoute. Hein. Enfin, ouais, on va pas se mentir. Ouais, c'est pas des mauvais albums. Des mauvais albums. Hein, on parle pas de carnage total musical. C'est vraiment des albums qui s'écoutent, mais on sent qu'il y a quelque chose de perdu, quoi.
Ouais, je pense aussi. Parce que, en grosse partie, c'est à partir de quand qu'il arrête de travailler avec Sussex ?
Donc, Sussex, Just Ment, hein. C'est Just Ment, ouais. Okay. Just Ment, c'est son dernier album avec Sussex. Il doit partir, justement, aller dans des grosses prods. Et là, je pense qu'il s'est fait bouffer.
Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que ça se sent directement dans la qualité des albums. On ne retrouve plus vraiment le Bill qu'il y avait avant. Et donc, plus la liberté qu'il avait à Sussex Record, évidemment. Voilà, je pense que ça va conclure notre petit hommage à Bill, un artiste magnifique, très très intéressant au niveau de sa philosophie de vie, avec des hits qui vous feront danser et sourire et pleurer encore de nombreuses années. Voilà, c'est tout. Ouais. On va maintenant passer aux petites actus qu'on a kiffées de la semaine. Mmh. Alors, première actu, on vous l'avait déjà annoncé, mais c'est enfin fait. Disney Plus est disponible en France à qualité réduite, mais c'est bien là. Ouais, les gens ont l'air plutôt contents.
Ouais, bof quand même. Hein.
Ah ouais ?
Ouais, ils ont mis carotte de dingue. En fait, il y a une loi en France
qui
fait que tu peux pas publier en SVOD, donc service de vidéo à la demande, des films qui sont sortis au cinéma il y a 3 ans.
Ouais, ils se sont fait baiser.
Ils se sont fait niquer de fou.
Ouais.
Ben, ensuite, il y a Sony qui vient de balancer sa manette pour la PS5 et ça annonce du lourd. Enfin, franchement, là, je pense que Microsoft, elle est en train de se faire dans son pantalon.
Elle est canon. Ensuite, on a La Casa de Papel, la saison 4 qui est sortie sur Netflix. Moi, j'en peux plus de cette série. Je suis désolé, je le dis ouvertement.
Oh là 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 là. On a perdu 100 auditeurs là. On a perdu l'entièreté de nos auditeurs.
Déjà, j'ai bien aimé la saison 1.
Oui.
Mais déjà, la saison 1, je me suis dit, mais c'est bon, c'est fini. Pourquoi il continue ? Saison 2, bon, allez, il termine l'histoire. Je passe. Et après, il se relance dans ce truc là. Et là, c'est même pas fini. Ils vont continuer. Ouais, c'est tout.
Et il va y avoir des spin-offs.
Ouais, mais c'est tout. Moi, j'arrête.
Oh là là. Coup de gueule d'Eléandre. Ensuite, il y a bien le MCU. La phase 4 a été reportée avec le coronavirus et elle commence le 20 août. Et donc, ce n'est plus Black Widow qui commence ses hostilités. La pauvre.
Tellement cher.
Putain, mais dingue, gros. Je comprends même pas pourquoi Black Widow n'a pas été le premier film féminin chez Marvel. Ouais. Enfin, bref.
On en a déjà parlé.
Ouais, mais ça me turlupine toujours. Bref. Donc, la phase commence le 20 août avec Winter Soldier et Falcon.
Yes.
Qui va démarrer sur Disney+. Et on espère qu'on aura Disney Plus.
D'ici là, ouais. Toujours pas d'âme.
Parce qu'il n'y a toujours pas. Ouais. Mais ils disent pour l'été.
Oui, bon, super. Quoi. Et on termine avec Lady Gaga qui a annoncé qu'elle organisait son concert caritatif One World Together at Home le 19 avril à 2h du matin. Il va y avoir full artiste évidemment. Donc ben, Lady Gaga, Elton John, Billie Eilish, Chris Martin, etc. Alors, Dali, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui comme petit kiff de la semaine ?
Eh bien, mon kiff de la semaine, je vais rester sur la soul. Je vais vous parler de Charles Bradley, qui est, pour moi aussi, un artiste plus que humain. C'est un gros kiff que j'ai eu sur lui. Je l'ai vu une fois en concert, mais ce gars a marqué ma vie à tout jamais. Donc, Charles Bradley dit aussi le Screaming Eagle of the Soul.
Quel surnom, quoi.
Ouais. Mais tu dois voir ces vidéos où justement il fait l'aigle, etc. C'est vraiment beau. Il est né le 5 novembre 1948 et il est mort le 23 septembre 2017. Sa vie, elle est quand même ternée de pas mal... on se demande pourquoi le sort s'acharne tellement sur une personne, quoi. Mm-hmm. C'est vraiment dingue. Donc, il est abandonné par sa mère à 8 mois et va vivre avec sa grand-mère. Et puis, vers l'âge de 8 ans, sa mère dit... Non, je veux connaître mon fils, reviens chez moi. Donc il retourne chez sa mère vivre à Brooklyn. Et là, en 1962, il y a sa sœur qui l'emmène voir un concert de James Brown qui va marquer sa vie à tout jamais, à l'Apollo. Et il va être émerveillé en fait par sa prestation et il va commencer à faire du miquisme. Donc il va l'imiter dans sa voix, il va l'imiter dans ses gestes, etc. À 14 ans, il décide de fuguer et il fugue avec son frère et pendant 2 ans, il va vivre à la rue. À l'âge de 16 ans, il trouve du boulot comme chef. Il a rejoint un programme d'insertion sociale.
Ouais.
Et alors là, pour lui, c'est une révélation parce que c'est la première fois qu'il voit des Blancs qui le traitent avec respect et qui sont juste là pour être son pote, tu vois. Donc déjà là, il se demande un peu qu'est-ce qui arrive, quoi. On est dans les débuts des années 70. Et puis, jusque dans les années 77, il va voyager un peu partout dans le monde, enfin partout en Amérique. Donc USA, il fait tous les États quasiment. Et puis après, il part au Canada, il va en Alaska. Et puis en 77, il décide de se poser en Californie.
La Californie.
J'ai eu des frissons. Il abandonne son boulot de cuistot et il va commencer à faire des petits boulots un peu chelous apparemment. Il n'en parle pas énormément de cette période-là. Et il fait aussi des personnifications de James Brown à cette époque. Il le fait sous le nom de Black Velvet. Fin des années 90, il reçoit un appel de sa maman, donc il a une trentaine d'années. Et sa mère lui dit, écoute, je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait vivre. Est-ce que tu veux bien revenir à New York et qu'on renoue, quoi. Eh bien, il plaque tout du jour au lendemain et il va rejoindre sa mère à New York. Hélas, le sort va encore s'acharner sur lui parce qu'il va tomber gravement malade. Il va faire des allers-retours à l'hosto. Il va friser la mort parce qu'il est allergique à la pénicilline et l'hôpital lui fait une injection de pénicilline. Mais il a tenu bon grâce à son frère qui venait tous les soirs à son chevet, lui chanter des chansons à l'oreille et lui dire « Écoute, frérot, si tu veux pas tenir pour toi, fais-le pour moi, s'il te plaît. Bats-toi pour moi, bats-toi mon frère, etc. »
C'est beau.
Bah, écoute, ouais, ce serait bien d'avoir des frères comme ça.
Ça tire à balles réelles.
Ça tire, exactement. Il sort enfin de l'hosto après 3 ans de maladie et à la sortie, il va rejoindre son frère.
Il va vivre avec lui, quoi.
Ouais, il va vivre avec lui, mais il va faire aussi des allers-retours avec sa mère, quoi. Enfin bref, il est un peu shady là-dessus. Et puis, il y a un soir, son frère lui dit, écoute, tu sais, je t'aime énormément, t'es vraiment une personne qui compte pour moi. Et puis, son frère part. Il se quitte sur ça. Lui, Charles, rentre chez sa mère, dormir. Et puis, le lendemain matin, shitstorm, les flics, les pompiers, les ambulances, etc. Plein de sirènes partout. Et on vient lui annoncer en fait que son frère s'était fait tirer dans la tête et il est mort. Ouais, non, franchement, mec, je te dis, une vie pareille, c'est vraiment chaud, quoi. Il commence réellement sa carrière musicale en 2002, donc il reprend ses personnifications de James Brown sous le nom de Black Velvet. Et il y a le co-founder de Daptown Records qui le voit comme ça dans un bar et il lui dit, écoute, viens avec moi, on va jouer un peu dans le studio, quoi. Et là, il rencontre le Man and Band, avec qui il va sortir un album seulement 9 ans plus tard, en 2011, qui est le premier album de Charles Bradley.
Ouais, mais il est super vieux alors là.
Il a 62 ans, frère.
Ouah, ça, c'est super
Donc
vieux,
il a
quoi.
Commandé ça, il a commencé pardon sa carrière musicale à 62
c'est
ans.
C'est pas commun.
C'est pas commun. Hein. Pour rappel, Bill Withers c'était à 30 ans. C'est le double.
Et déjà là, c'était bizarre.
Ouais. Ça a son petit succès, en tout cas aux États-Unis, ça a son petit succès, surtout dans la soul. Enfin, faut dire que l'album, on avait rarement entendu de la soul comme ça. C'est vraiment un retour aux sources avec des paroles, tu sais, axées justement, comme tu disais, sur l'amour, mais avec un rythme assez funk à la James Brown. Enfin bref, c'est vraiment un très très bon album que je recommande chaudement en fait. Et puis en 2013, il sort son second album, Victim of Love, qui le fait découvrir à l'international. Et c'est avec celui-là d'ailleurs que je l'ai connu et je l'ai vu à Rockwerther à cette époque-là. Et alors, pour moi, c'était le coup de foudre instantané. Enfin, il y a un gars qui te chante de la soul comme ça sur scène, il est à fond dans son rôle, tu vois. Le gars, quand il chante des chansons d'amour ou des chansons tristes, le gars, il pleure sur scène.
Il
donne sa vie.
Ouais, en même temps, pour un artiste soul, il vaut mieux.
Oui, c'est ça, il vaut mieux. Mais il donne sa vie. Sur scène, il donne sa vie. Et alors, il a des moves chelous, tu vois, à la James Brown. Mais alors, il a la soixantaine, tu vois. Donc, c'est un peu maladroit.
Et ça avait un charme fou, quoi. Je suis tombé amoureux directement. Mais alors, ce qui m'a fait réellement kiffer, c'est qu'à la fin du concert, le gars, il est descendu de scène et il a commencé à remercier tout son public.
Thank you.
Tu vois, il allait vers son public, il disait merci d'être là, ça me fait extrêmement plaisir. Il prenait les gens dans ses bras, pour ceux qui avaient pleuré pendant son concert. Enfin, c'était dingue, quoi.
Ouais.
Un artiste qui fait ça, gros, jamais de la vie, tu vois, les gens font ça, tu vois. Et puis, il me fait une petite pause musicale pour ressortir son troisième album, Changes, en 2016, qui est son dernier album et qui a une reprise de Black Sabbath qui est juste...
Magnifique.
Ouais, ouais. Franchement...
très poignante.
Si vous ne pleurez pas là-dessus, je ne comprends pas. Donc Changes, eh bien, il l'a dédié à sa mère. Mm-hmm. Et alors, on va vous mettre en lien la chanson, quoi, son interprétation en live pour une radio à Toronto. Enfin bref, Charles Bradley, c'est mon amour. Il y a de ces personnes qui passent dans ta vie comme ça, mais juste un instant, et qui la bouleversent à tout jamais.
Je vois ce que tu veux dire.
Et Charles Bradley, il en fait partie en tout cas pour moi. Même maintenant, j'ai l'impression qu'une partie de moi, en fait, est juste morte en même temps que lui, tu vois. Enfin, surtout dans la chanson, etc. Il apporte énormément, quoi. C'est un artiste comme on n'en fait plus, je pense, comme on n'en fera plus jamais.
Mais déjà, sa vie est complètement incroyable, évidemment. Tu viens de me le faire découvrir. Mais avoir les couilles de commencer une carrière musicale à cet âge-là, c'est que tu dois avoir une passion.
Mais il voulait juste faire son kiff et il l'a vécu, quoi. Mais après, une carrière musicale aussi courte, il l'a vécu intense, quoi.
Ouais, évidemment.
Mais toi, je sais pas, qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as...
Bon, la cover que tu m'as fait écouter, c'est tellement deep, ça te fait des frissons, ça c'est sûr. Pour les gens qui connaissent pas trop la soul music, je trouve que c'est de la musique, enfin genre il faut les diriger vers ça, quoi.
Ouais.
C'est vraiment la musique de l'âme. Là, c'est même plutôt de la heart music.
Ouais.
La musique du cœur, tu vois. Tu sens vraiment qu'il chante avec son cœur. C'est vraiment très très impressionnant.
Et toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Écoute, merci Dalil déjà avant tout pour cette petite découverte. Moi, on va changer un peu de thème, mais au final, pas tellement. Parce que plus on en parle, plus je trouve qu'il y a des similitudes entre The Wire, la série dont je vais vous parler, donc sur écoute. Donc en fait, en gros, j'ai voulu parler d'un film ou d'une série dans laquelle on entendait un morceau de Bill. Et vu que le hasard fait bien les choses, c'est le cas dans le premier épisode de la première saison de The Wire. Pour donner un peu de contexte, c'est genre la série... Je sais qu'il faut que je la mate depuis longtemps.
Ouais, tout le monde le dit, en fait.
Tout le monde le dit, mais personne ne le fait, j'ai l'impression.
C'est ça.
Et alors, je me dis, bon, allez, confinement. Enfin, ben, voilà.
Il faut bien y aller, là.
Voilà, quoi.
Il faut se laisser dans le panade. Voilà.
Donc, je regarde. Et une grosse claque, quoi. Attention, je n'ai vu que la saison 1. Donc, ne me spoilez pas dans les commentaires. Je vais essayer de ne pas vous spoiler ici si vous n'avez même pas vu la saison 1.
Ouais, parce que moi, je ne l'ai pas encore vu. Je suis comme toi, tu vois.
Donc, je me suis déjà fait spoiler, d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de références à The Wire, dans le genre, dans le hip-hop, etc., quoi. Donc, je me suis déjà fait spoiler, en fait. Bref. Sur écoute est donc une série télévisée américaine créée par David Simon, écrivain, journaliste. Il a écrit le livre Baltimore, qui a inspiré la série, et co-écrite avec Ed Burns, diffusée sur HBO de 2002 à 2008. Baltimore, donc en gros, c'est comme un journal intime de David Simon, qui donc pendant un an va faire un gros travail journalistique au sein de la brigade criminelle de la police de Baltimore.
Allez.
Donc si vous n'êtes pas très à jour sur Baltimore, c'est une ville très très chaude au niveau des flics.
Baltimore, c'est Atlanta ?
Non. Baltimore.
Okay. Moi et la géographie.
Et donc, c'est très tendu. Il y a une grosse communauté afro-américaine. Et c'est là que c'est parti en couille il y a quelques années avec les Black Lives Matter.
Enfin,
ça a toujours été très tendu à Baltimore.
Ouais, c'est tendu là-bas.
Et donc là, le sujet de la série, c'est la criminalité dans la ville de Baltimore, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers la vision de ceux qui la vivent au quotidien. Donc, c'est-à-dire qu'on va on va avoir la vision des policiers, des trafiquants en tout genre, des politiciens, des enseignants, des journalistes, des résidents de Baltimore, etc. C'est pas une série qui va être focalisée sur un...
Ah, je pensais que c'était que sur les flics.
Un point de vue. Non, pas du tout. Enfin, si, principalement, on suit une affaire policière, évidemment. Et là aussi, ça va changer le game, parce que là où on a énormément de séries policières qui proposent donc une affaire par épisode, là, on va suivre une affaire pendant toute la série, en fait. Enfin,
ah ouais, elle a niqué le game au début, quoi.
Je pense.
Enfin, c'était une des premières à faire ça.
Bah, je pense, tu vois.
Attends, je réfléchis quand même.
Genre, maintenant, ça se fait beaucoup, genre True Detective et tout. Enfin, tu vois, il y a énormément de séries policières qui font ce style-là, mais...
C'était 2000 combien ?
2002 que ça 2002, a commencé, hein, tu vois. D'accord. Enfin, j'ai pas creusé ça énormément.
Tu te rends compte, en plus, ça a commencé en 2002 et la carrière musicale. Punaise, il y a vraiment trop
des connexions partout.
De connexions.
Et donc, ils vont se focaliser sur la même affaire tout le temps, en fait. Et donc, c'est une série très, très, très politique, très, très bien ficelée, parce que ça montre le point de vue donc, des flics méchants, il y a des flics gentils, et des dealers qui sont gentils et méchants. Enfin, tu vois, il n'y a pas de héros.
C'est une série grise, quoi.
Ouais. Bah, je vais spoiler un peu, donc
spoiler
alerte.
Bouchez
mais par exemple, on suit donc le quotidien des dealers, et genre les petits de 12-15 ans qui sont là, qui doivent dealer parce qu'ils sont dans la merde, quoi, sinon ils sont à la rue.
Ouais.
Donc c'est le seul moyen d'avoir un peu de bif. Non, je vais pas spoiler tellement, mais il y a des moments très 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 forts, très très poignants là-dedans. C'est une grosse critique aussi du système policier, et pas seulement, genre, souvent ça se fait les ripoux, tu vois, ceux qui prennent un peu d'argent.
Comme les tontons flingueurs.
Ils mettent de la cam à côté pour dire, ah, c'est ta cam et tout, tu vois, ça je trouve que ça se fait beaucoup. Mais là, HBO, ils vont carrément contre le système policier de manière générale, donc il y a énormément de critiques sur la hiérarchie de la police. Alors aussi, non, ça c'est une affaire pour le FBI, non, ça c'est une affaire pour les narcotiques, et la guéguerre entre différentes sections de la police, etc. quoi. Au niveau du casting, c'est pas vraiment les débuts, mais c'est ce qui va lancer un peu la carrière de Idris Elba.
Oui, mais justement, parce que pour moi, j'avais lu qu'il n'était pas directement dans la saison 1. Il est directement là ?
Si, il est là.
Ok.
Ensuite, on a Dominique West, qui est le rôle principal dans l'agent McNulty. Je trouve qu'il a un nom magnifique, quoi. Jimmy McNulty.
Ça pèse. Hein.
Ouais, il a pas fait une grosse carrière après ou avant, donc c'est vraiment son rôle.
Je pense qu'il est rincé à vie, je pense, avec The Wire.
Ouais, je crois que ça devrait aller. Il a fait des petits rôles, des second rôles un peu à gauche, à droite. Et mention à l'excellent André Royo, qui joue le rôle de Bubble, un indique shooté à la cam. Mais il le fait très, 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 très bien.
À ce qu'il paraît, il se shootait directement sur
tout à fait.
Le truc.
Donc voilà, je vous
fausse
conseille...
Info, hein. Fausse info.
Fausse info, évidemment. Je vous conseille, si vous voulez regarder une petite série policière très, très deep, très intelligente, très bien construite, très bien filmée, très bien ficelée, avec des personnages hauts en couleur, avec beaucoup de couches de personnalité.
Oh là là, c'est comme un oignon à chaque fois que tu le pèles.
C'est ça. Eh ben, je vous conseille The Wire, saison 1. Je vous conseillerai la saison 2 quand je l'aurai terminée. Et la saison 3 quand je l'aurai terminée. Et la saison 4 quand je l'aurai terminée.
Donc là, pour le moment, il vous conseille que la saison 1.
Pour l'instant, que la saison
1. Il faut pas,
vous
faut
m'attendez
pas
pour regarder la suite.
Voilà, c'est ça.
Voilà, c'est un peu la fin de notre podcast spécial afro-américain, au final.
Au final, ouais. Hein. Quand même.
Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Si ça vous fait plaisir, mais je vous avoue qu'on ne pense pas énormément dessus.
On n'est pas extrêmement actifs sur Twitter.
Non, mais voilà. Suivez-nous sur les autres réseaux sociaux.
Ouais, surtout sur...
Partagez ce podcast, ça nous fait plaisir.
Surtout.
Et alors, n'oubliez pas...
La confiture, c'est comme la pop culture.
Non, attends, qu'est-ce que tu racontes là ?
Des bêtises.
La pop culture, c'est comme la confiture...
Moins on en a,
plus on est létal. La pop culture, c'est comme la confiture.
Moins on en a,
plus on l'étale. À la semaine prochaine.